Bonsoir. Anne Stacquet étant absente, c'est moi qui la remplace cette fois-ci et la fois prochaine. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Gilles Rémy. Après des études au Conservatoire de Bruxelles et de musicologie à l'ULB, il est aujourd'hui professeur à l'IAD, où il enseigne l'histoire et l'analyse musicale ainsi que les arts comparés. Il enseigne également l'histoire comparée des arts au Conservatoire de Mons. Alors, depuis septembre 2009, il est producteur de l'émission Ciné-Son sur Musique 3 qui passe le dimanche soir, donc de 18h à 20h. On a déjà eu le plaisir de vous accueillir pour l'opéra, donc aujourd'hui c'est pour le cycle Renaissance. Voilà, je vous laisse la parole et à tantôt.
Voilà, donc je suis très heureux de revenir ce soir pour évoquer aussi une discipline qui m'intéresse et qui me renourrit, je dirais, d'année en année, non seulement à l'IAD, mais ici au Conservatoire, c'est effectivement la confrontation, je dirais plutôt le dialogue des arts. Et c'est tout à fait opportun dans l'évolution de ma carrière, je peux dire ça comme ça, que Anne m'ait interpellé à ce sujet pour venir parler effectivement à la Renaissance des jonctions, des interférences, de la manière dont on pouvait voir et lire en miroir la réunion entre les arts. C'est quelque chose qui m'intéresse passionnément depuis longtemps et que grâce au fait que dans l'IAD et maintenant au Conservatoire, ces disciplines se sont progressivement ouvertes depuis quelques années, j'ai pu aussi moi-même entretenir évidemment ces matières. Alors, ça me paraissait évidemment, quand on doit parler d'art comparé, c'est toujours difficile, parce que où va la comparaison, où faut-il s'arrêter, comment est-ce que ça marche, est-ce qu'il faut uniquement aborder cela selon des critères chronologiques, ce que j'ai fait ici évidemment, parce que ça me paraissait pertinent par rapport à la Renaissance, d'établir quand même dans la chronologie, mais aussi dans les différences de sensibilité par pays, par sensibilité, etc., comment le phénomène de la Renaissance, du point de vue artistique, puisque je sais que vous avez déjà eu des conférences dans le domaine de la philosophie, des religions, etc., et donc ça me paraît intéressant de voir son application dans le domaine des arts. Je dirais même que la Renaissance est, dans notre imaginaire, d'abord une émergence par l'art, avant de l'être peut-être par d'autres branches. Ça, c'est une question plus large, évidemment. Je vais peut-être pas me lancer d'emblée sur cette discussion. Mais les critères d'approche sont toujours délicats. Donc on peut effectivement lire la peinture qui fait référence à la musique et voir comment elle le fait, regarder l'architecture et voir comment est-ce qu'il pourrait y avoir, sur la thématique des proportions, des nombres, la théorie des nombres, des liens entre l'architecture et la musique, comment est-ce que la littérature, la poésie par exemple, s'est-elle développée au XVIe siècle et comment est-ce qu'il y a eu un lien et de nombreuses jonctions entre des compositeurs qui se sont véritablement nourris de la littérature de leur temps. Et donc, c'est vrai que c'est difficile, c'est aussi difficile évidemment en 1h15, donc j'essaie de faire une synthèse, je vais rentrer dans une série de domaines et en même temps, j'éveillerai certains domaines, mais je serai qu'ils seront revus et relus par d'autres spécialistes ultérieurement, donc j'irai pas trop loin, mais en même temps j'irai le plus loin possible dans l'analyse du rapprochement évidemment entre les arts. Donc première chose à dire pour respecter l'ordre de cette brève introduction, c'est que le Quattrocento en Italie, c'est vraiment donc à partir des années 1400, je suppose que vous le savez, à partir de ce moment-là qu'on peut considérer qu'il y a émergence d'un courant artistique nouveau qui pourrait se définir d'une façon, disons, double. D'une part, un retour à l'antique, comme son nom l'indique, c'est-à-dire on recommence quelque chose, mais en même temps un nouveau départ. Donc c'est un petit peu, ça va dans les deux sens peut-être, la Renaissance. À la fois un nouveau départ, parce qu'on n'est plus dans le monde antique, hein, on est dans le monde chrétien, et en même temps, c'est une série de références. C'est une série de références, effectivement, qui font abusivement, enfin, pas abusivement, mais abondamment, référence à l'Antiquité, aussi bien dans les arts plastiques que dans la musique, que dans la littérature. Donc ça, c'est aussi essentiel pour bien saisir cela. Le néoplatonisme, qui est peut-être le mouvement philosophique essentiel, c'est justement cette jonction hein, entre la pensée antique, païenne donc, et le monde chrétien d'aujourd'hui. Comment joindre les deux, comment joindre ces deux bouts? Eh bien, c'est un petit peu tout le dialogue, peut-être, du XVIe siècle. Alors, l'approche comparative est évidemment très intéressante parce que elle, au lieu de voir les arts d'une façon séparée, comme on peut l'enseigner peut-être aujourd'hui encore dans beaucoup d'établissements, la Renaissance, c'est un peu comme dans l'Antiquité, évidemment, les artistes côtoient, se connaissent, apprécient les autres arts et s'en nourrissent. L'art se nourrit de l'art, évidemment, c'est assez banal de le dire, mais c'est vraiment le cas à la Renaissance. Et donc, il est légitime de retourner à cette espèce d'unité, sans nostalgie, évidemment, mais à cette espèce d'unité des arts et aussi de la vocation progressive que les arts auront à travers des artistes polyvalents de créer des œuvres d'art presque totales où on a une résonance avec tous les arts rassemblés autour d'une œuvre. Et ça, ça me paraît très pertinent. Comme je l'ai dit, divers centres, même si c'est l'Italie qui domine, c'est clair, hein, la France aussi, qui reste encore attachée au monde gothique, mais les pays du Nord, l'Allemagne, nos régions, etc., sont aussi sensibilisés par le phénomène de la Renaissance, mais différemment. On va voir comment les choses se présentent. Pas la prétention de faire une synthèse globale, on restera assez longtemps dans l'Italie, mais c'est vrai qu'il y a une dimension autre et vécue différemment à travers tout cela. Alors, un mot aussi, peut-être du point de vue politique, quand même, pour faire référence, parce que quand on parle de Renaissance, dans notre imaginaire culturel, on a l'impression que c'est une époque merveilleuse. Ça l'est. Bien sûr, c'est le début du mécénat, c'est le début des arts à Florence, etc., avec les familles comme les Medici qui vont vraiment aider les arts à émerger. Mais en même temps, c'est aussi une époque trouble. On parle, je voyais les titres des conférences, les grandes découvertes, c'est une chose très positive. Certains parlent du phénomène de la mondialisation à cette époque-là, mais c'est en même temps aussi des grands massacres, évidemment. Je ne vais pas commencer à... Mais c'est important de bien saisir cet aspect-là, à refaire toute l'histoire ici. Parler de la réforme et des guerres de religion, c'est essentiel. Et comment est-ce que cette réforme a eu un impact sur les arts? C'est aussi une partie de mon propos. Donc, les quelques points que je voulais aborder tout d'abord, c'est la naissance de la perspective dans la peinture, et je vais le faire d'une façon sommaire pour voir quel est l'intérêt qu'elle peut porter, notamment à travers la place de l'homme, l'homme avec un grand H, hein, l'humain, l'être humain plus exactement, l'homme, l'individu, et cette notion d'humanisme dans l'art. C'est vraiment peut-être un point essentiel de la Renaissance aussi, c'est cette place de l'homme. Alors, la théorie des nombres qui lie évidemment la beauté à un chiffre, à un nombre, est essentielle aussi. On renoue aussi dans l'Antiquité, on va le voir comment, dans l'architecture, dans la musique, avec un bel exemple qui nous permettra de bien saisir les relations. D'autre part, il me paraissait opportun d'évoquer le retour à l'antique avec l'ode et toutes ces odes de Pierre de Ronsard, et le développement aussi avec les sonnets, comment la chanson polyphonique se développe en France au XVIe siècle sur la base de modèles en fait qui se rapportent à la métrique de l'Antiquité, et comment les musiciens vont joindre tout ça avec les poètes, bien sûr. La religion est essentielle, même si l'art profane prend une certaine dimension. On ne peut pas encore vraiment parler de laïcisation de la culture, mais disons qu'il y a une interférence entre les deux, on va le voir, je vais aussi le montrer, entre l'art profane et l'art religieux, comment les choses se nouent, et comment la réforme dans les pays du Nord, avec Luther évidemment, ont eu un impact sur les arts. C'est aussi une thématique essentielle. Alors, pour en venir à l'Italie, bien sûr, je voulais dire que, et c'est aussi très important, la Renaissance, Rinascita, donc, qui est le titre même de cette époque, enfin le terme générique que l'on utilise pour éclairer les arts à partir de 1400 jusqu'au XVIe siècle. Après, on parle d'époque baroque pour délimiter un peu les choses, même si, disons, la Renaissance en Italie, c'est en gros un petit siècle, non pas vraiment un petit siècle, disons un gros demi-siècle d'avance par rapport aux autres pays, par des artistes qui vont évoluer, comme Van Eyck, par exemple, et d'autres, au milieu du XVe siècle. Ce qui est intéressant à dire, c'est qu'au milieu du XVe siècle, Vasari, qui a écrit des biographies, qui s'est intéressé à l'art et qui a théorisé tout ça, c'est pas le seul, eh bien, va dire, il s'agit de la Renaissance. Donc, c'est une des premières fois que l'on manifeste son intérêt par rapport à l'art contemporain et qu'on dit qu'on est dans une nouvelle époque, qu'on appelle Renaissance. Or, les autres époques ont été dénommées plus tardivement, évidemment. Donc, c'est une manifestation d'un artiste et surtout d'un théoricien, Vasari, qui a donné naissance au mouvement en tant que tel, qui prend vraiment sa source dans l'Italie et plus précisément à Florence, dans la Florence des Médicis, c'est important, avec Cosme de Medici et tous les autres, ils vont suivre dans cette famille, évidemment. Je l'ai dit, ça va être aussi un lien entre l'art et le pouvoir, parce que le pouvoir va financer l'art et l'art va se servir du pouvoir aussi. C'est très intéressant comme perspective. Les artistes sont valorisés, hein. Un Titien qui fait le portrait de... On cite souvent ça comme anecdote, mais c'est très révélateur, qui est en train de faire le portrait de Charles Quint, son pinceau tombe et Charles Quint va ramasser le pinceau du Titien pour qu'il puisse poursuivre son acte créateur. C'est extraordinaire. Quand la famille des Gonza, qui est une des familles les plus importantes en Italie, comme l'Italie est morcelée en plusieurs états, avec des familles importantes, les Gonza également tout, demande à Michel-Ange de réaliser une œuvre, il lui laisse la liberté totale, pourvu que ce soit de la main quasi magique, ils ne disent pas ça comme ça, du créateur et de Michelangelo, qui est un artiste polyvalent par excellence, hein, vous le savez bien. Donc vous voyez dans quelle mesure les pouvoirs sont liés et surtout la manière dont ce mécénat va se servir de l'art, et l'art va aussi exploiter vraiment à travers tous ces artistes ces conditions, je dirais, politico-sociales qui arrivent au jour qui émerge à ce moment-là. Alors Brunelleschi est une figure essentielle à la Renaissance, au milieu, enfin dans le Quattrocento et dans son développement. C'est considéré comme un architecte, mais très proche aussi d'autres artistes. Et c'est au fond, on ne peut pas lui attribuer la paternité de l'invention de la perspective, mais disons, parce que c'est abusif, parce qu'on peut trouver des sources de la manière dont on traitait dans la peinture la perspective bien avant Brunelleschi. Mais Brunelleschi va évidemment théoriser ça. Et ça, c'est et il va initier des peintres comme Masaccio et d'autres vers ce qu'on appelle la perspective géométrique. Sur ceci, un tout petit mot d'approche, parce que c'est important pour la suite de ce qui va nous intéresser. On confronte ici la tavolette de Brunelleschi avec ce qu'on voit ici, donc le miroir. En fait, Brunelleschi, que fait-il? Il va voir le baptistère de Florence, donc il a devant lui la réalité des choses. À côté, il a la peinture qu'il a essayé de réaliser, plus un miroir, donc dans les deux mains. Et il y a ce mouvement de va-et-vient qui vous voyez, d'aller-retour, pour qu'il essaye d'avoir en aplati, c'est-à-dire évidemment en deux dimensions et non pas en trois, la même impression de la perspective. Il confronte ce qu'il a réalisé comme peinture avec la réalité. Et avec le miroir, il parvient justement avec ce jeu-là à découvrir au fond le point de fuite et la géométrie, ce qu'on appelle la perspective géométrique linéaire avec des lignes, qui est développée par Alberti très peu de temps après. Voici comment Alberti, ça c'est un premier schéma, peut-être que celui-ci est meilleur, il est juste à l'envers, mais peu importe. Dans la perspective, dans la méthode d'Alberti. Alberti est aussi un théoricien, donc c'est un art qui va se théoriser assez rapidement, même s'il émane évidemment d'expériences, bien sûr, mais ces expériences se concrétisent rapidement. Et vous le voyez, hein, je n'ai pas besoin de commenter outre mesure, mais c'est découvert du point de fuite, et alors le fait d'essayer d'avoir en deux dimensions, donc en aplatissant sur un tableau ou sur une représentation, avec toute une série de techniques, évidemment, de retrouver ces points de convergence qui conduisent à cette structure pyramidale décroissante qui est au fond la manière dont on va appliquer géométriquement la perspective dans les tableaux, dans les peintures. D'où le fait d'utiliser des damiers, par exemple, au sol, qui décroissent. Ou d'où les lances, par exemple, dans le tableau de Uccello, la bataille de San Romano, ce fameux triptyque, on voit des lances au sol qui donnent un effet de perspective géométrique, notamment. C'est toute une série de démarches, comme celle-ci chez Masaccio, qui est décédé assez jeune et dont on n'est pas tout à fait sûr de cette peinture murale, de la date, hein, 1426, mais c'est dans le prolongement des inventions de Brunelleschi, où Masaccio ici réalise la Sainte Trinité, vous voyez, à Santa Maria Novella, à Florence. Cette peinture murale se trouve à gauche quand on rentre dans l'église, et on a effectivement, j'ai montré un détail, comment il essaye d'appliquer les principes initiés qu'il a été par Brunelleschi, voilà. Il essaie d'arriver à ce genre de perspective comme ça, plongeante, avec dans cette peinture murale, dans cette fresque, si vous voulez, à Santa Maria Novella. On trouve alors une application avec un des rivaux, peut-être aussi. Ça ne se passait pas toujours très bien, les ententes entre les artistes, pour obtenir justement certains privilèges ou l'opportunité de développer son art. Ghiberti, ici, dans ses bas-reliefs, vous voyez, c'est connu, hein, sur les portes du baptistère. Il y a effectivement trois dimensions, parce que ce n'est pas tout à fait un aplat. Il y a, dans ces bas-reliefs, dans la rencontre de Salomon et de la reine de Saba, vous voyez très très bien l'application de la perspective géométrique. Et elle va servir effectivement de créer des pans différents, c'est-à-dire des niveaux différents. Elle permettra d'hiérarchiser, par exemple. Piero della Francesca utilisera ça dans des principes d'hiérarchisation des personnages religieux, Christ, par exemple, dans la flagellation, à l'arrière-plan, probablement les commanditaires du tableau, la flagellation, à l'avant-plan, et on a une utilisation de la perspective qui devient alors très intéressante parce qu'elle est utilisée pour placer dans une perspective décroissante et pour créer une hiérarchisation entre les personnages. Comme on le voit ici, évidemment, on a bien compris qu'avec les marches, avec l'ordonnancement architectural à l'arrière-plan, on a vraiment le point de fuite au centre, entre les deux personnages au centre. Donc, une belle application ici, on pourrait le développer, je ne vais pas m'étendre trop, parce que c'est plus du domaine de la peinture, dans le domaine donc de la perspective. en ce qui concerne la perspective dite entre guillemets aérienne. C'est une autre approche de la perspective qui est tout aussi intéressante. Donc, j'ai pris un exemple très probant avec la Mona Lisa, la Joconde, peinte évidemment par Da Vinci. Da Vinci est effectivement un peintre, mais il est beaucoup plus que cela. D'ailleurs, il n'a pas peint énormément. Il était tellement, disons, soucieux du détail, soucieux d'un travail bien fait, qu'il mettait beaucoup de temps à réaliser ses chefs-d'œuvre. Dans ses textes, on a gardé ses carnets, il y a des textes très instructifs pour comprendre toutes les inventions, toute cette verve qu'il avait, qu'il animait. Dans le domaine des machines, on le sait bien, il y a souvent des expositions là-dessus. Eh bien, la perspective aérienne est expliquée de cette façon-ci. Il est une sorte de perspective que j'appelle aérienne parce que les différences d'atmosphère permettent d'évaluer les distances de divers édifices. Les choses les plus lointaines, telles les montagnes, en raison de la grande quantité d'atmosphère interposée entre ton œil et elles, te sembleront azurées. Tu donneras donc de la couleur la plus naturelle à l'édifice le plus proche, et le plus distant sera plus azuré. Et donc, il crée une perspective aérienne avec une sorte de chromatisme des couleurs, d'échelle des couleurs, hein, qui donne cette impression d'être dans le lointain. Voici un exemple, je ne vais pas m'attarder sur ce tableau, mais on voit bien l'application de la perspective aérienne ici. On peut peut-être éteindre parce que c'est plus fin. Voilà. Vous le voyez, hein, derrière, dans le personnage, à l'avant-plan bien sûr, et c'est dans le paysage et dans les montagnes qu'il vient de décrire qu'on découvre cette perspective aérienne. Et dans beaucoup de tableaux de Da Vinci d'ailleurs, il utilise cette technique où on va vers quelque chose qui est indistinct dans le fond du tableau. Donc, une utilisation de la perspective qui me semble aussi ici très intéressante. Alors, dans un autre domaine, avec un autre parallélisme qui est très instructif, dans le premier tiers du XVe siècle, vous le savez, il y a un édifice qui va véritablement faire de Florence et qui sert aujourd'hui pour toutes les cartes postales. C'est évidemment la réalisation extraordinaire de Brunelleschi dans le domaine de l'architecture, le fameux dôme hein, qui finalement tient, on ne sait pas très bien comment d'ailleurs, tellement je n'ai plus les dimensions en tête, c'est 100 mètres sur 45. Enfin, c'est essentiellement une œuvre, une prouesse architecturale qui tient grâce à la double coque, la coque extérieure et la coque intérieure, et qui a permis à Brunelleschi de réaliser quelque chose qui n'avait pas, à cette époque-là, encore pu être réalisé dans le domaine de l'architecture. Et on en vient à faire une association avec la théorie des nombres appliquée aux arts ici. La théorie des nombres, alors là, m'impose de remonter à l'Antiquité. Cette théorie des nombres, c'est Pythagore. C'est Pythagore qui découvre les proportions de la musique. 1 sur 2, c'est l'octave, 3 sur 2, c'est la quinte. Et il découpe, en découpant une corde, il obtient, en respectant les fractions numériques, des consonances ou des dissonances. Les consonances dans les nombres entiers, les dissonances dans des rapports de nombres entiers, mais plus importants. 8 sur 9 pour le ton, par exemple, alors que 1 sur 2 pour l'octave. C'est d'abord l'octave, la quinte et la quarte qui sont privilégiées, viennent ensuite la tierce et les autres intervalles. Ces intervalles musicaux, eh bien, sont à l'image du monde, d'une cosmogonie qu'on va appeler l'harmonie des sphères, une organisation plus globale, spéculative, c'est tout à fait spéculatif, mais ça correspond à l'application des gammes de Pythagore. Donc c'est un ordonnancement des choses qui est basé sur l'équilibre. On parle aussi de nombre d'or, on va dire que l'homme est la proportion de toutes choses, on va découvrir effectivement que sur les mensurations humaines, mais on peut retrouver le fameux nombre 1,618 que l'on pense retrouver sur des édifices architecturaux comme le Parthénon, la pyramide de Khéops, et d'autres encore aujourd'hui font référence à ce nombre. Et donc, on a un rapprochement entre les intervalles musicaux et les proportions numériques qui sont associées, donc je cite Bramante, qui sont associées pour qu'il existe un plaisir identique pour l'âme dû à l'usage des mêmes relations chiffrées constituant l'harmonie des voix et celle de l'œuvre architecturale. Un extrait ici dans un traité de Bramante qui explique très clairement la liaison, évidemment, entre les deux. On pourrait aller plus loin et dire que, comme l'Antiquité le dit d'ailleurs, que la beauté naît d'un rapport de proportion aussi. Cet équilibre entre deux choses naît d'un rapport calculé, mesuré, qui est mesurable donc, qui fait émerger la beauté des nombres. Alors, l'application ici devient très pertinente quand le dôme de Brunelleschi et toute l'église Santa Maria del Fiore est inaugurée en 1436. Et à cette occasion-là, un artiste, Guillaume Dufay, vient composer, travaille à Florence à ce moment-là. il vient composer un motet, c'est-à-dire une œuvre religieuse, pour célébrer les autorités pontificales de l'époque. J'ai un tout petit doute sur le nom du pape de l'époque, donc je vais me taire, c'est dans les notes, mais j'ai un tout petit doute maintenant, donc je crois que c'est Eugène quelque chose, je ne suis plus sûr. En 1436, toujours est-il, que cette inauguration a lieu en présence du pape et qu'un motet est composé sur, et je vais bientôt expliquer le schéma qui est là, mais on va passer en revue la prouesse architecturale de Brunelleschi, il est composé sur des mesures clairement établi par l'architecte. Donc il y a une relation, si vous voulez, entre cette œuvre musicale et l'architecture, et plus exactement le dôme, c'est-à-dire la coupole, hein, dôme, duomo en italien, ou la coupole, ce sont deux termes qui se rapprochent. Voici donc la réalisation que tout le monde connaît. Grandiose, évidemment, puisque quand on regarde Florence, si on va un peu sur les montagnes environnantes, on voit tout de suite l'effet que ça peut procurer. L'édifice, toujours Renaissance avec ce marbre particulier, ces alternances aussi de couleurs, hein, le caractère zébré des édifices, la Renaissance. Je ne vais pas m'y attarder, puisqu'on le développera certainement. Voilà. Alors, il a en fait 8 nervures, voici avec les absides secondaires, derrière ce dôme. Je vais prendre voilà, l'intérieur, vous voyez, et c'est ici que je veux m'arrêter une seconde. Il a en fait 8 nervures principales à l'extérieur et 16 à l'intérieur dans la double coque, comme vous le voyez. Il y en a 16 comme ça tout autour et 8. Donc il y a évidemment une symétrie et il y a aussi, c'est indispensable pour que ce dôme puisse tenir. Donc il y a un espace entre les deux coques qui permet évidemment le maintien de l'édifice. Évidemment, c'est un rapport de force dans lequel je ne vais pas m'aventurer, mais c'est une prouesse architecturale. Je pense qu'on peut dire que la coupole du Reichstag à Berlin a été en partie, mesure de Forster, je crois, en partie imitée d'après les plans de Brunelleschi, ou en tout cas est apparentée esthétiquement au travail de Brunelleschi. Pour montrer aussi que c'est évidemment une œuvre qui aujourd'hui nous interpelle outre mesure. Alors voici les proportions du motet. Et c'est là que je vais venir ici pour l'expliquer. Là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, c'est surtout plus abstrait. L'architecture, on la voit, on sait calculer les choses. Voici ici le plan et la découpe dans ce plan-ci. En fait, il y a, comme vous le voyez dans les proportions architecturales, 6 modules, voilà, pour la nef, 4 pour le transept, donc voilà ici 6, 4 pour le transept, voilà, 2 pour l'abside et 3 pour la coupole. Voilà, donc je l'ai représenté ici. J'ai moi-même accentué le schéma pour qu'on puisse comprendre ces modules, qui sont donc identiques. Et en fait, Dufailly part de là pour avoir son module musical fondé sur la mesure, le tactus, de 28, voilà, où il aura 6 fois 28, 4 fois 28, 2 fois 28 et 3 fois 28, pour la nef, évidemment, pour le transept, pour l'abside et pour la coupole, coupole ou dôme, donc. Et donc, il y a un rapport, évidemment, d'évidence avec ces chiffres, hein, 6, 4, 2 et 3. Donc, rapport identique par rapport à l'architecture, rapport identique par rapport à la musique. Et donc, il construit un motet qui est véritablement, une des premières fois, hein, parce que Guillaume de Machaut avait aussi écrit des pièces avant Guillaume Dufailly, en se basant sur les nombres. Hein, ce n'est pas la première fois qu'on le fait. En se basant sur un motet donc, à 4 voix. Et ça, c'est important parce que motet, en fait, ça vient de motetus, du latin motetus, ça veut dire mot. On met en musique des mots et on met en musique des motets religieux, comme c'est le cas ici. Si le texte est religieux, il évoque l'édifice, il évoque aussi les autorités pontificales, etc., puisqu'il s'agit d'une cérémonie d'inauguration, on imagine bien. Et il va utiliser, vous le voyez, 2 ténors. Et ça, c'est rarissime. Pourquoi utilise-t-il 2 ténors, d'après les musicologues, auxquels je me réfère ici, qui ont fait une analyse beaucoup plus complexe que j'ai moi-même résumée, à simplifier plus exactement, parce que c'est assez compliqué. Parce que normalement, dans le motet, il y a un seul ténor. Le ténor, c'est celui qui tient la voix du cantus firmus, c'est-à-dire de la mélodie grégorienne originelle, sur laquelle le compositeur compose des voix supérieures, qu'on appelle triplum ou motetus, ou qu'on peut appeler soprano, alto, si vous voulez, ça revient à peu près au même. Il recourt à 2 ténors qui font référence, évidemment, à la double coque, bien sûr. Et ces 2 ténors sont en imitation permanente. Donc il y a là une référence aussi intéressante, qui n'est plus de l'ordre du nombre, mais qui est de l'ordre de la référence de l'organisation d'une architecture avec l'organisation architecturée de la musique. Et si on regarde la partition, un tout petit peu plus loin quand même dans l'analyse, parce que c'est clair à ce moment-là, j'ai aussi, évidemment, mentionné donc si on prend le module de 28, voilà, c'est à la 28e mesure qu'apparaissent les deux ténors. Voilà, on le voit ici. Et donc, on a un rapport de mesure 168, c'est-à-dire 6 fois 28, hein, 112, 56 et 84, qui correspond à ceci, si vous voulez. Hein, et que j'ai moi-même, évidemment, dans la partition, insisté pour montrer bien qu'on était vraiment dans un rapport numérique très intéressant. Donc ici, Nuper Rosarum Flores, voilà, son motet deux voix, et puis il fait entrer les ténors, ici, à la 84e mesure. Donc c'est pas un hasard, hein, ce chiffre n'est pas un hasard, et dans un processus imitatif. Ta, 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 da, 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 vous voyez ? Le rapport étant, évidemment, avec des maximes, des notes longues, qui forment une assise, comme l'intérieur de la coupole, comme une assise aussi pour la soutenir. On l'a évidemment dans l'architecture musicale avec les ténors. Et alors, si on regarde la suite de la partition, on va l'écouter tout de suite le morceau, la fin de la nef, 168 ici, ça correspond à une nouvelle section binaire pour le transept, voilà, à partir de cet actus-ci. 28 mesures, voilà, nouvelle section, vous voyez, et on avance comme ceci. Et on observe alors l'abside. Et on va monter à chaque fois, vous voyez, nef, transept, abside, et puis évidemment la coupole. Voilà, et on arrive ici, et la musique alors, voilà, se développe, continue à se développer, et on va arriver tout à la fin à une série de vocalises, ici, qui évoquent un peu, dans la main finale, vous voyez, voilà, au superius, donc le superius vocalis, c'est-à-dire rajoute des notes montantes, et qui pourrait évoquer, là je m'avance un peu parce que chronologiquement c'est pas juste, on va le voir tout de suite, le jugement dernier, voilà, donc on voit l'intérieur ici, hein, la nef, voilà, et voici donc Vasari qui a réalisé ce jugement dernier plus tardivement, puisqu'on est là au milieu du XVIe siècle, avec des figures qui montent, qui montent, qui montent, qui donnent évidemment une impression, ce que traduit la musique ici. Je dis bien ici qu'il n'y a pas de relation entre les deux, mais la relation est symbolique, si vous voulez, la mène, l'ascension, eh ben on l'a ici dans les vocalises. Voilà. Je propose d'écouter ce très beau motet, et qui évidemment rapproche deux œuvres et deux artistes de la même époque. Voilà le texte en latin. Le latin qui était évidemment la langue religieuse dans les pays catholiques, évidemment. Commence avec les... Voilà les ténors. Transept. Tactique.
aussi.
Le ténor, qui est instrumental en même temps. Uniquement des vocalises pour l'abside sur O, cadence, ténor. Le dôme maintenant, la coupole donc. Changement d'allure, changement de mesure aussi. Accélération. Donc l'accélération est évidemment voulue par Dufay, en rapprochant des notes, il crée un effet évidemment ascensionnel que l'on faisait dans la musique, hein, pour terminer sur Amen. Et on a effectivement un rapprochement, comme je l'ai fait avec la coupole et la peinture de la scène du jugement dernier qui a été rajoutée après l'inauguration. Voilà donc un exemple très éclairant, et ça me permet de bondir ici sur une œuvre bien connue pour en expliquer le sens peut-être. Et avec la présence de la musique et des arts, plus généralement, cette œuvre donc réalisée par Raphaël. Raphaël donc qui a peint, qui a travaillé donc pour le pape Jules II et qui a peint au Vatican ces fameuses chambres de la signature. C'est très intéressant du point de vue effectivement de rapport avec l'antique, mais en même temps ce monde antique repris dans le monde contemporain, c'est-à-dire celui de son temps et des artistes qui sont présents dans son temps. Et c'est pour ça que j'ai repris appui sur cette fresque merveilleuse avec d'autres fresques. Ce serait ici, d'une façon générale, l'allégorie du vrai rationnel. Il y aurait le vrai surnaturel qui serait le Saint-Sacrement qui fait face, et alors la beauté qui serait représentée dans le même espace, puisqu'il y a plusieurs fresques dans cette petite chambre de la signature, représentée avec Apollon et les muses au Parnasse, évidemment, qui représentent l'idéal de la beauté. Et ici, dans ce tableau, je vais me permettre d'utiliser, peut-être on peut éteindre encore plus pour voir plus clairement les personnalités qui sont représentées dans l'école d'Athènes. Merci, hein. Voilà, parfait. Donc, clairement, la perspective est mise au service ici de la composition. On a, en fait, Platon au centre, ici vous le savez bien, en train évidemment de poser un geste très évocateur, qui semblerait dire, si on l'interprète parmi les interprétations possibles, que la vérité serait au ciel alors, ou en tout cas qu'elle serait d'ordre spirituel peut-être. Alors, on a à côté de lui, si ma souris veut bien revenir, on a, le voici, Aristote, qui semble tempérer ce geste, assez clair, voilà, avec sa main ici, qui tempère ce geste en disant, ben, sur Terre, on a effectivement les sciences qui évoluent. Et plus particulièrement, avec les sciences, on a toute une série de choses, dont Pythagore ici, avec ses disciples, vous le voyez, qui est assis là, à côté de lui, dans une pose qui évoque une certaine nostalgie, une certaine mélancolie, hein, avec sa main ici, c'est Michelangelo, qui est en fait Héraclite le philosophe. Tout comme ici, on a Platon sous les traits de Leonardo da Vinci avec sa barbe. Donc, il représente des figures de l'Antiquité, mais avec des visages du monde contemporain, comme pour faire un écho, évidemment. Alors, Michelangelo, qui est ici, est en train d'écrire, est en train de penser, dans un acte de pensée, est en fait au bas de quatre marches qui évoqueraient très clairement et symboliquement le fameux quadrivium. Dans le fameux quadrivium, on a effectivement la musique associée avec d'autres sciences. Je l'ai dit, les nombres sont très importants et la musique est considérée comme un art, disons, d'ordonnancement scientifique, puisqu'on va la voir avec l'astronomie, hein, l'arithmétique et la géométrie. Ce qu'on a ici, puisqu'on a sur le côté, voilà, Diogène ici qui est couché, et là, on a sous les traits de Bramante, la géométrie, voilà, ici avec son compas, c'est Euclide, et Ptolémée, l'astronomie, avec la map monde. Alors que Raphaël, si je le pointe bien, il est là. Donc il s'est représenté, vous le voyez ici, de plus ou moins de profil, encore assez jeune à l'époque. Il mourra très jeune, Raphaël, et il s'est peint dans cet univers qui associe l'architecture de la Renaissance avec des éléments, évidemment, avec des éléments antiques. Hein, l'Antiquité représentée ici, par exemple, là, la perspective, juste ici, entre les deux, le point de fuite, le centre étant la discussion qui repose sur cet état de choses, qui fait, au fond, de ce tableau, l'incarnation même de la philosophie développée par Marcille Ficin, on vous en a peut-être parlé, du néoplatonisme. C'est vraiment ça. C'est le monde antique revu à travers des personnages contemporains de la Renaissance qui s'interrogent sur les mêmes questions, les sciences, la philosophie, la musique, les arts, etc. Et le quadrivium est associé, est enseigné avec ce qu'on appelle les arts libéraux, c'est-à-dire, depuis le Moyen-Âge, c'est quelque chose qui a traversé le Moyen-Âge pour arriver à la Renaissance. Il ne faut pas croire que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une rupture, c'est vrai, une ouverture à la Renaissance, mais le Moyen-Âge, évidemment, n'a pas été une époque, comme on l'a souvent dit, de noirceur, d'obscurantisme. Il y a eu toute une série de textes grecs qui ont été traduits, par Boèce notamment, au Moyen-Âge, et les théories artistiques se sont entretenues. Donc le quadrivium et le trivium, alors, dans lequel on situe d'autres formes, comme par exemple la grammaire, il y en a encore deux, la rhétorique, merci, et le troisième, maintenant j'hésite, et la dialectique, voilà. Et on a les sept arts libéraux, donc les arts dits de l'esprit, hein, par opposition aux arts serviles, une distinction intéressante. Merci madame de m'avoir remémoré les choses essentielles. Voilà donc, par rapport à Raphaël. Et j'en viens ici, toujours dans mon développement avec les arts, de faire des liens, évidemment, entre Titien et la musique. Thank you. tableau du Titien remarquable, on n'est pas sûr de l'attribution. C'est peut-être Giorgione qui aurait réalisé ce tableau, donc on l'attribue à Titien, mais certains spécialistes ne sont pas tout à fait sûrs. Concert champêtre, donc en 1511, donc l'effervescence de la Renaissance. Je n'ai rien à dire de plus parce que je voudrais simplement évoquer ce que j'ai choisi comme musique pour rentrer en écho avec le tableau, puisqu'effectivement c'est la même flûte, comme vous avez remarqué. Je peux la remontrer. C'est les teintés, mais c'est vraiment le même modèle. C'est un modèle de cette époque-là, enfin un peu plus tardif, mais bon, c'est une copie, évidemment. Merci. Donc, c'est le modèle des flûtes qui jouaient des mélodies pastorales, par exemple, à l'époque. On a toute une série de thèmes. J'ai ici joué un thème de John Dowland, donc un compositeur anglais. C'est plus ou moins la même époque, mais ce n'est pas évidemment le même cadre. Mais peu importe. Où cet instrument a été largement utilisé, on le voit d'ailleurs dans beaucoup de tableaux, pas uniquement dans l'œuvre du Titien, et qui est quand même connoté, comme la plupart des instruments avant, plutôt de l'ordre de la musique populaire, alors que les cordes, le luth en particulier, on le voit d'ailleurs aussi dans cette espèce de conversation qui pourrait être au fond une antithèse entre deux nymphes ou deux muses qui sont là nues. Il y a une relation aussi très belle avec la présence des nues. On sait bien que le thème du nu va se développer avec les Vénus, évidemment, chez Titien et chez d'autres peintres. Cette très belle sensualité, mais aussi cet échange entre le luth, le joueur de luth, qui est bien habillé, le berger qui est à côté, et la muse ou nymphe, ça dépend des interprétations, qui tient à cette flûte. Donc il y a un dialogue des arts ici. Titien aimait beaucoup la musique, donc ça revient souvent. L'orgue, par exemple, aussi, avec la Vénus d'Urbino, par exemple, ou d'autres instruments sont intégrés dans ces tableaux. Alors, j'ai un documentaire que je propose de visionner, mais quelques minutes, pour avoir un éclairage complet sur ce qui pourrait être l'interprétation de ce tableau, et qui le montre très bien à travers sa structure aussi, et son énigme, finalement, parce que on n'a pas toutes les données de l'interprétation, ce qui est d'ailleurs très bien, finalement. En particulier, ces muses imaginaires. Et je vous invite donc avec l'outillage. Voilà. On va pouvoir éteindre dans une seconde quand j'aurai fini les opérations de connexion. Donc, je ne laisse pas tout ce. C'est un documentaire remarquablement bien fait d'Alain Jaubert.
Le jeune homme en rouge vient donc de la ville et apporte avec lui un instrument de musique fragile et coûteux qui contraste avec la simple flûte pastorale tenue par la femme. Le luth à cinq doubles cordes augmentées d'une chanterelle est un instrument fréquent dans les images vénitiennes de l'époque. Et l'une des deux femmes, quoique nue, porte elle aussi les marques de la mode aristocratique, les cheveux serrés en chignon par un voile de soie légère retombant sur l'épaule. Mais pourquoi des femmes nues évoluent-elles dans la campagne à côté d'hommes habillés qui semblent les ignorer? Pourquoi la flûtiste est-elle nue et assise dans une position aussi désinvolte? Que fait l'autre femme à l'allure plus noble? Vient-elle de puiser de l'eau ou bien s'apprête-t-elle à en verser dans le bassin, ce qui semble absurde? Il pourrait s'agir d'une simple rencontre bucolique par une belle fin d'après-midi d'été entre deux couples, le premier étant venu de la ville visiter celui de la campagne. Cette explication a toujours paru trop simple aux historiens d'art qui ont échafaudé des hypothèses plus complexes. Les deux jeunes femmes seraient des nymphes des bois, invisibles aux yeux des autres personnages, mais montrées au spectateur par le peintre, comme le ferait un poète dans un poème élégiaque. Cela expliquerait donc le geste de la femme de gauche, les nymphes des eaux remplissaient les sources. Le tableau serait une allégorie de la poésie. Dans la suite de cartes de jeu du tarot dit de Mantegna, imprimé à Ferrare vers 1468, il existe une figure de la poésie. Si il joue de la flûte d'une main et verse de l'eau dans une source de l'autre main. La figure de la musique est une femme assise qui, elle aussi, joue de la flûte, un luth à ses pieds. La femme à la fontaine pourrait aussi rappeler le signe zodiacal du Verseau, symbole du temps qui passe et de la brièveté des plaisirs. Il a été proposé de voir également dans le concert une illustration des commentaires de Marcille Fissin sur le banquet de Platon. Les deux aspects de l'amour seraient symbolisés par les deux jeunes gens opposés par leur habillement. Quant aux deux femmes, elles représenteraient la nature double de Vénus, terrestre et céleste. L'une est assise pesamment à même la terre, l'autre s'élance debout sur un seul pied. Et le concert serait en fait une allégorie de l'amour et de la beauté. De nombreuses images astrologiques mettent en scène la double nature de Vénus et de ses enfants, le plus souvent sous forme de groupes de musiciens et de baigneuses à la fontaine. Venise, au début du XVe siècle, devient la capitale européenne du livre imprimé. On édite les classiques grecs et latins, et aussi quelques livres en italien. Les manuscrits étaient rares ou difficiles d'accès. Les livres pénètrent désormais chez tous les lettrés. Beaucoup de tableaux de Titien sont inspirés d'écrits antiques. Le peintre tente de réinventer les tableaux célèbres de l'Antiquité, disparus mais décrits par les chroniqueurs. La bacchanale des Andriens. Ou encore, il illustre des scènes mythologiques décrites par les poètes et surtout par Ovide. Bacchus et Ariane, Vénus et Adonis. D'ailleurs, Titien retourne la fameuse phrase d'Horace « Ut pictura poesis », la poésie comme la peinture, mais appelle ses tableaux « poésie ». Ainsi, le concert pourrait illustrer la légende d'Orphée rapportée par Ovide. Ayant perdu Eurydice à tout jamais, Orphée décide de se consacrer désormais à l'amour des jeunes garçons. Un fragment de la légende raconte qu'Orphée s'éprend du jeune Calaïs. Cela déclenche la colère des femmes de Thrace qui le mettent à mort.
Donc, j'interromps ici parce que j'ai plusieurs développements à faire. Pas uniquement, bien sûr, par rapport à cette œuvre du Titien, mais parce que effectivement, on trouve aussi, et on a pensé une inspiration de Manet avec le déjeuner sur l'herbe, bien. Vous voyez la parenté aussi avec ces femmes nues et les hommes habillés dans le fond. Donc il y a une connexion possible. Autre idée aussi, il parle d'Orphée, d'une relation masculine, je ne sais pas si c'est exact, tout ça. Toutes ces hypothèses soulevées sont très intéressantes parce qu'elles cadrent bien aussi avec l'ambiance de l'époque, évidemment. Mais ça reste un mystère. Par contre, on peut aussi évoquer, mais en amont, puisque Balthazar et Castiglione et l'idéal du courtisan, qui est un manuel justement du courtisan, qui pourrait être incarné par le luthiste ici, par la beauté de son costume rouge, le port de son béret et le berger en opposition. Il joue sur les contrastes, on l'a bien compris. Eh bien, pourrait figurer cet idéal du courtisan, mais qui surgira peut-être 20 ou 30 ans plus tard par rapport au tableau. Donc il y a peut-être ici, chez Titien, cette volonté d'aller en amont par rapport à ce qui se profile progressivement dans l'exploitation de son tableau et aussi la résonance avec la musique qui est évidente ici. Le luth est l'instrument au XVIe siècle, c'est l'instrument, on en a entendu quelques sonorités, le plus répandu dans toute l'Europe. C'est un petit peu, si je peux permettre une comparaison, l'équivalent du piano au XIXe siècle, évidemment. Dans son usage, dans les belles manières, dans l'apprentissage de la musique, on joue du luth. Les chansons au luth sont innombrables et le luth est vraiment connoté proche de l'aristocratie, comme le sera par exemple le virginal ou le clavecin également. C'est l'instrument noble par excellence et c'est pour ça que je faisais cette opposition plus populaire avec la flûte, venant aussi peut-être plus de ce qu'on pourrait appeler, par exemple, dans la mythologie, le combat entre Apollon, qui tient à la lyre, et Marsyas, qui joue de l'holos double, c'est-à-dire une sorte d'instrument qui s'apparente au hautbois. On a la victoire d'Apollon, mais ça donne tout, évidemment, et ceci pourrait être lu dans cette perspective-là, non pas d'un combat, mais en tout cas d'une interpellation. On voit bien qu'ils ne se regardent pas, c'est comme deux univers différents, bien sûr, hein, qui sont séparés, mais il y a quand même une sorte dans les mouvements, par exemple, chez Titien, de ces personnages, hein, de ce quatuor. Alors une autre œuvre qui est très révélatrice et très intéressante, qui n'a rien à voir avec l'intimité de l'œuvre précédente, il y a eu une très belle exposition, vous le savez, à Paris, sur les rivalités vénitiennes entre ces peintres, avec Tintoretto, le Tintoret, le teinturier qui avait sa maison à Venise, Titien et Véronèse, donc qui se sont effectivement, à un moment donné, trouvés dans des situations difficiles de pouvoir vivre de leur art, et Tintoret étant jaloux peut-être aussi de du succès que rencontrait Titien et également de Véronèse, qui a réalisé cette œuvre pour un couvent bénédictin à San Giorgio Maggiore à Venise. Il a échappé de justesse à la censure et aussi à la montée de l'Inquisition parce qu'il représente un sujet religieux. Il représente un sujet religieux comme il l'a fait aussi dans d'autres scènes de banquet, le repas chez Simon Lévy, etc. Ce tableau a été restauré, il est maintenant aujourd'hui au Louvre, hein, vous l'avez certainement déjà vu. C'est un tableau immense, c'est un banquet, je crois qu'il y a plus de 130, enfin une bonne centaine de personnages. D'après Philippe Bosson, je crois qu'il en a dénombré 132, pour vous donner une dimension de la scène en question. De quoi s'agit-il? C'est raconté dans l'évangile de Jean, les noces de Cana, et peut-être aussi dans les évangiles synoptiques. En tout cas, chez Jean, où je l'ai lu, il s'agit évidemment du miracle accompli par Jésus qui se trouve au centre, à côté de la Vierge Marie, qui transforme à un moment donné l'eau en vin, à l'occasion de noces qui se déroulent en Galilée à Cana. Donc les noces de Cana, la Marie étant, je la montre, elle est ici, sur le côté. C'est évidemment pas dans cette voie que je veux aller, mais je veux quand même vous expliquer le thème. Voilà, elle est ici. Donc, vous voyez, alors les personnages semblent en pleine discussion. Vous voyez, mais parce que forcément, ce miracle vient de se produire, et si on regarde attentivement le tableau, on a l'impression que certains s'en rendent compte, comme cette femme-ci, qui à un moment donné semble absente, parce qu'elle regarde effectivement sur les coupes qu'on apporte, que l'eau finalement se transforme en vin. Et sur certaines d'entre elles, comme ici, c'est déjà du vin. Et tout le monde en parle. Donc les conversations pourraient porter sur ce thème-là. Il y a d'autres choses, évidemment. Et ce qui nous intéresse a priori, c'est ceci. C'est ce quatuor, ils sont plusieurs, à jouer de la musique, dans un tableau qui est censé représenter une scène religieuse. En fait, et je vais prendre un détail qui est ici, avant de revenir en arrière, sur ce détail, on a la clé peut-être, et on le voit bien, je suis assez content, on le voit, parce que c'est un détail qui a son importance, c'est le sablier qui est ici, le voici, voilà, qui semble soutenir, en fait, il n'a pas d'usage, si ce n'est un usage symbolique, de soutenir la partition, ici. Alors, qui est ce personnage? Eh bien, c'est Véronèse lui-même, peint en blanc, en train de jouer de la viole. De la viola, ou de la lyre ad abbraccio, ça dépend, parce que c'est pas comme ça qu'on l'a joué, hein. Les peintres sont pas toujours très sensibles à l'exactitude du jeu. En fait, on la tenait entre les jambes. Par contre, Titien, qui est habillé, me semble-t-il, en cardinal ici, voilà, Titien, avec sa barbe, joue de la contrebasse de viol qui existait à la Renaissance, avec l'archet qui est ici, vous le voyez, l'archet est là, et Titien semble concentré, pas vraiment sur une partition, ou lit-il la partition qu'elle a, je ne sais pas. Et alors, derrière, le voici ici, il est là, il joue lui aussi, c'est Tintoret. Et Bassano, un autre peintre moins connu, jouerait, lui, on le voit ici avec son instrument, c'est le cornet à bouquin, qui est un instrument qui s'apparente en fait au cuivre parce qu'il a une embouchure de cuivre, mais qui est un instrument en bois, légèrement courbe, qui est très à la mode à cette époque-là. Voilà, et ce joueur est ici. D'autres sont là en train d'avoir d'autres instruments, etc. Que font ces instruments? Une sac-boute ici à l'arrière-plan, dans ce côté festif, hein. Alors qu'on est dans un tableau religieux, c'est pour ça que je vous dis qu'il a échappé de justesse à la censure, grâce probablement au fait que ce symbole ici véhicule le fait que la musique est dans le temps. La musique est éphémère, elle est fugitive, comme les plaisirs, alors que, évidemment, la figure du Christ ici et la Vierge Marie à côté sont absents de la scène. Hein. Voilà. Et les mots que Jésus dit à sa mère, la Vierge Marie, il dit « Mon temps n'est pas encore venu ». C'est notamment dans les conversations ce qu'il dit dans cette scène-là. Et il semble, lui, en dehors du temps. Cette intemporalité est aussi figurée par le côté statique de la figure, alors que les autres sont en mouvement. On a une confrontation de la temporalité de la musique et de la scène, si vous voulez, un moment précis qui s'est produit, et une intemporalité de la figure de Jésus et de Marie. Alors, ce que j'ai retrouvé qui me semblait très intéressant, c'est ceci, qui montre, c'est moins net, hein, vous le voyez bien, mais qui montre clairement l'organisation dans une architecture de la Renaissance d'un thème religieux, c'est de nouveau la même histoire que par rapport à Raphaël et d'autres. Les trois niveaux, et c'est important, et je vais les montrer ici. Donc, premier niveau, le niveau musical éphémère par la présence du sablier qui s'écoule. Le niveau intemporel, et même, voire même ici vers le ciel, c'est le sens de la flèche, avec le troisième niveau, on est en train ici de sacrifier un agneau. En fait, on coupe un agneau en morceaux, on est en train de dépecer un agneau. Donc l'agneau, évidemment, fait référence à Jésus, c'est l'agneau, c'est le sacrifice de l'agneau pascal, mais qui deviendra effectivement la métaphore de Jésus. Donc on a une parabole intéressante, une lecture, voilà, si on revient ici, on le voit là, juste au-dessus de Jésus ici, ils sont en train donc de sacrifier un agneau. Et donc, ça prend évidemment un sens très intéressant par rapport à cette organisation de la toile et la présence de la musique dans ce contexte, avec des peintres qui sont musiciens. Alors, c'est aussi intéressant, c'est de se dire, mais ces peintres adoraient la musique à Venise et sont gavés de cet univers. Alors, j'ai pris, pour l'illustrer, une œuvre très intéressante, adressée précisément à ces instruments que vous voyez, pour les mettre en résonance avec le tableau. C'est un compositeur anglais, vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai été pêché en Angleterre alors que j'aurais pu prendre de la musique italienne. Et j'ai choisi une fantaisie qui correspondait bien avec le tableau. Voilà. Basse de viol. Orlando Gibbons, compositeur anglais, un peu plus tardif par rapport au tableau. Fin du 16e. Une fantaisie, une œuvre improvisée. Comme on le voit ici, 1, 2, 3, à l'exclusion du cornet à bouquin qui est là. Thank you. On est aussi ici dans la musique polyphonique, puisqu'il y a une superposition de mélodies, comme dans le motet de tout à l'heure, qui était un motet religieux, ici, dans de la musique profane. Fantasia, donc fantaisie, c'est-à-dire improvisation écrite, sur base d'un petit thème qui est distribué à différentes voix, et on fait une série, disons, d'élaboration instrumentale, sans la voix, sans le recours du chant, comme dans le tableau. Vraisemblablement, il ne chante pas, mais on n'est jamais sûr. En tout cas, il n'y a pas de bouche ouverte, ce qui est une indication, évidemment, de l'accès au chant. Beaucoup d'autres tableaux font référence, bien sûr, à la musique. Voici un autre univers, c'est peut-être pas l'œuvre la plus connue de Michelangelo, mais Michelangelo est vraiment un artiste polyvalent, aussi bien grâce au premier plan qu'il a réalisé de Saint-Pierre de Rome, que dans le domaine de la peinture, on pourrait citer le Jugement dernier par exemple, et toute la chapelle Sixtine réalisée et restaurée il y a 15-20 ans, peut-être 20 ans déjà, plus tout son travail dans le domaine de la sculpture. Très jeune déjà, il réalise une œuvre admirable, comme la Pietà par exemple, son Moïse aussi. Beaucoup d'œuvres évidemment émanent de lui, aussi bien que ces œuvres très intéressantes qui sont les inachevées, hein, qui montrent bien le processus dans lequel il rentre. Il prend un bloc de marbre et il le travaille pour aboutir à des œuvres extraordinaires, dans des mouvements qui annoncent le maniérisme aussi chez Michelangelo. Donc, à lui-même, il suffirait de s'étendre pendant une heure, mais j'ai voulu faire une comparaison. La comparaison peut paraître très étonnante. En fait, la comparaison émane d'un autre artiste d'une autre époque, pour montrer que la Renaissance n'est pas, entre guillemets, qu'une époque fermée sur elle-même. Elle a inspiré beaucoup d'artistes. Et elle est revendiquée ici, cette comparaison est revendiquée par Franz Liszt. Un tout petit mot, de quoi s'agit-il par rapport à cette œuvre architecturale qui est placée dans un ensemble, dans la chapelle des Medici, tout en dessous. On descend, on va la voir, il y a plusieurs tombeaux, dont celui de Laurent II. Hein. Ce n'est pas Laurent le Magnifique, c'est Laurent II, Lorenzo. Hein, vous savez qu'il y a une famille assez importante, il y a la pièce de théâtre de Musset qui a été présentée, je crois, à Liège, il y a quelque temps, Lorenzaccio, qui évoque toute une série de problématiques autour de ça. Je n'y rentre pas. Mais on a donc une construction intéressante d'une œuvre remarquable qui est celle évidemment du tombeau lui-même. Donc, ce tombeau se trouve évidemment ici et les deux figures allégoriques sont ici, donc l'aurore et le crépuscule, et le tombeau est là. Si on prend en détail maintenant, voici, c'est à l'envers, mais c'est pas grave, on voit bien Lorenzo donc avec une tenue qui semble remonter à l'Antiquité, en fait, un personnage dans son temps, et surtout ce geste qui a inspiré Rodin à la fin du 19e siècle. Pourquoi ? Hein, on le voit bien, eh bien, c'est devenu le penseur, évidemment. Mais il n'y a pas que Rodin qui a été inspiré par cette sculpture, la Renaissance. Il y a plusieurs attributs dont se livre avec une chauve-souris symbolique, la pose aussi relâchée, qui est typiquement aussi travaillée par Michelangelo, qui crée des œuvres vraiment en mouvement, toujours dans ce contexte-là. Et c'est ici que j'en viens à ce petit quatrain qu'il a écrit, Michelangelo donc, par rapport à ce discours de la nuit, par rapport à la mort, évidemment. On est dans une thématique nuit, mort, etc. Et ce discours de la nuit, ce quatrain, comme il écrivait aussi, donc, de la poésie, a inspiré Franz Liszt dans une pièce qui s'est appelée, en 1856 ou 58, heureusement que j'ai noté, parce que j'avais un moment des doutes, Il Penseroso, donc le penseur, tout simplement. Et voilà la pièce pour piano de Franz Liszt. Qu'est-ce qui s'est passé ? Franz Liszt, en voyant la sculpture, a été, lors d'un voyage, ces fameuses années de pèlerinage au XIXe siècle avec la comtesse Marie d'Agoult, il était fasciné par l'Italie, on comprend. Il ne s'est pas inspiré que de Michelangelo, mais aussi de Raphaël, d'un tableau d'ailleurs. Et il a écrit des pièces pour piano en relation directe avec les œuvres qu'il avait vues. Et le quatrain qui est là, je rends grâce au sommeil, et plus encore au fait d'être de pierre. Aussi longtemps que l'injustice et la honte règnent sur terre, j'estime comme bénédiction de ne rien voir ni rien sentir. Donc, ne me réveillez pas et parlez doucement. Donc, c'est l'annonce, évidemment, qui figure en contrebas de la sculpture de Michelangelo. Et la pièce pour piano n'est plus qu'une marche funèbre, alors, vers le silence. Hein, vers le silence qui est évidemment énoncé ici, à travers les silences musicaux, donc. Marche funèbre qui descend dans le grave de la tessiture du piano, dans les profondeurs, qu'on va écouter maintenant, en écho direct. Donc, il fait référence au texte ici en italien, le quatrain traduit là en français, du monument, donc, de Laurent. Et cette pièce pour piano est restée aussi emblématique dans la musique de ce qu'on pouvait avoir comme image de la mort, parce qu'il recourt, comme on l'a dans les marches funèbres, à un rythme de croche pointée double, pam, pa-pam, pam, 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 très lent, très respectueux par rapport à la sculpture. Pardon. Ça donne une idée de l'univers, évidemment, de Liszt. Et ça correspond à l'atmosphère qui règne dans cette petite chapelle. Pour ceux qui l'ont visitée, effectivement, c'est très très proche de l'univers qu'on peut ressentir. Et aussi par rapport au texte donc évoqué ici, sur le silence, dans sa relation, sa résonance avec la nuit et la mort. Voici, pour rappel, donc, on est plus tard. Là, j'ai évoqué le fait que Liszt a composé sa pièce en l'intitulant comme cela, bien avant que Auguste Rodin ne réalise toute une série, comme on le voit ici, dans son musée. Voilà donc de la pose très différente, mais quand même inspirée du penseur, donc, qui va s'appeler intitulé Le Penseur, mais qui fait référence au travail de Michelangelo, dans une pose plus tourmentée, bien proche évidemment de l'univers de Rodin, avec des matériaux différents. ce que j'aime beaucoup, et je vais rapidement l'évoquer, c'est cette citation de Liszt par rapport à la sculpture et la musique. On n'est plus évidemment à la Renaissance, mais ça ne fait rien. C'est cette idée d'art, de fusion des arts qui animait aussi évidemment les artistes de la Renaissance et qui a contribué à animer aussi des musiciens et des compositeurs au XIXe. Il dit « Tous les arts reposent sur deux principes, la réalité et l'idéalité. L'idéalité n'est sensible qu'aux intelligences cultivées. La réalité de la statuaire est sensible à tous. Elle a son type dans la figure humaine que tous connaissent. Il n'est pas d'artisan qui ne puisse être frappé tout autant qu'un poète de ce qu'il y a de vrai dans Phidias et dans Michelangelo. Chacun est à même d'apprécier le degré de fidélité dans l'imitation du corps humain. Il n'en est pas ainsi pour la musique. » Distinction essentielle pour lui. Donc il met la musique évidemment à un autre niveau que les arts dits imitatifs. Ce que, par exemple, Da Vinci n'accepte pas. Il dit, la peinture a sa propre autonomie par rapport à la réalité, bien sûr. C'est un large débat, vous imaginez bien. Il n'en est pas ainsi donc pour la musique. Elle n'a pas, pour ainsi dire, de réalité. Elle n'imite pas, elle exprime. La musique est à la fois une science, comme l'algèbre, et un langage psychologique auquel les habitudes poétiques peuvent seules faire trouver un sens. Or, comme science et comme art, elle reste presque entièrement inaccessible à la foule. C'est le côté un peu élitiste, on le devine ici, de la démarche de Liszt, qui se traduit peut-être pas dans cette pièce, mais peut-être dans la musique virtuose, pour piano notamment, de son répertoire. Alors, venons-en à la France, parce que le temps avance et que je ne voudrais pas ne pas évoquer évidemment Pierre de Ronsard. Si j'ai choisi Pierre de Ronsard, c'est parce que en France, au XVIe siècle, c'est vraiment une figure très importante qui va influencer. On peut rallumer, hein, je pense que c'est mieux comme ça. Qui va véritablement influencer toute une série d'artistes. Pourquoi ? Ben parce que ses sonnets, parce que ses odes, Les Amours de Marie, par exemple, lui aussi à Hélène, vont véritablement être mis en musique par toute une série de compositeurs. Clément Jeannequin, Sérmizi, enfin, on ne va pas tous les citer ici, parce que j'ai pris un exemple pour évoquer la transposition en musique. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on se trouve confronté à une écriture poétique qui est prédestinée à être mise en musique et qui, en fait, va permettre, avec un seul poème, d'avoir différentes versions musicales d'une seule œuvre poétique. Donc ça veut dire que la métrique est tellement bien, si vous voulez respecter le cadre métrique, permet une application de mise en musique différente. Autrement dit, il n'y a pas de lien alors entre la poésie et la musique, puisqu'on pourrait mettre en musique plus ou moins n'importe quel texte. Et c'est une pratique, je schématise un peu, hein, mais c'est une pratique très courante au XVIe siècle. Ça veut dire que l'association ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'une association, si vous voulez, puisqu'on peut calquer un produit sur un autre, il n'y a pas de lien direct entre ce qui est dit dans le verbe et ce qui va être traduit par des sons. Et c'est donc assez contraire au développement d'une autre théorie qui émergera plus tard à l'époque baroque, où on va dire, la musique, à l'époque de Monteverdi par exemple, elle est servile par rapport au texte. Elle se doit d'exprimer les passions qui sont exprimées dans le texte, et donc surtout pas être autonome par rapport au texte, pouvoir être calqué comme ça d'une façon rigoureuse. Ça n'est possible à la faveur des 14 vers, par exemple, et surtout avec la pratique du décasyllabe chez Pierre de Ronsard, les 10 syllabes dans chaque vers, qui permettent un rythme régulier d'application dans une musique. On trouve évidemment très facilement la possibilité d'exploiter tel texte avec une autre musique. À tel point, ça va aller même plus loin, j'avance un peu ici, je vais le démontrer tout de suite, que certaines mélodies seront les mêmes pour des textes qui seront d'une part religieux et d'autre part profanes. Vous voyez à quel point ça devient, je ne vais pas dire absurde, mais le processus de la contrefaçon, on pourrait dire ça comme ça, ou de la parodie telle qu'on l'utilise au XVIe siècle et que Bach exploitera dans ses cantates encore, hein, c'est quelque chose de très généralisé à l'époque. Voilà, ça c'est évidemment un cadre général, ça ne veut pas dire que ces arts n'étaient pas faits pour se rencontrer, bien sûr. Au contraire, on renoue avec l'antique Ronsard, le fait dans la forme et la structure de ses poèmes. On fonde une académie en 1572, à une époque où Ronsard est encore assez présent, mais je crois qu'il était à la fin de sa vie, si je me rappelle bien, sourd. En tout cas, il n'a pas entendu la plupart des adaptations de ses propres pièces en musique, donc il n'a pas commenté ça. Toujours est-il que dans ces années 1570, il y a une académie fondée par Antoine de Baïf, par exemple, qui se veut un lien entre la poésie et la musique. Donc on renoue avec l'Antiquité, encore une fois, on renoue où les arts se rencontraient. Et donc j'ai pris appui sur une citation de Ronsard dans un des textes sur les abrégés de la vie poétique, où il dit que la poésie sans les instruments ou sans la grâce d'une seule ou plusieurs voix n'est nullement agréable. Non plus que les instruments sans être animés par les mélodies d'une plaisante voix. Vous voyez la complémentarité. C'est exactement le même processus que l'on rencontre à l'Antiquité, où c'était mêlé, si vous voulez. Alors la chanson polyphonique et le madrigal, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose. Concrètement, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le produit d'un art profane, de la bourgeoisie, de l'aristocratie, des classes élevées, cultivées, qui vont s'approprier la poésie ambiante. Un Pétrarque, par exemple, va inspirer beaucoup de madrigalistes, c'est-à-dire des compositeurs, qui vont composer, d'après les poèmes de Pétrarque, d'après tout ce qu'ils auront à leur disposition en matière de poésie, et ils vont y ajouter des voix, même aussi des instruments. Et la chanson polyphonique est l'équivalent en France de ce qu'est le madrigal à la même époque. Et le madrigal est l'antichambre, si je puis dire, c'est-à-dire le premier pas vers un art qui se développera dans l'opéra, puisqu'on va avoir dans les madrigaux la naissance de petites scénettes, par exemple, c'est-à-dire plus qu'un poème, on développera une petite histoire. Avec une autonomie intéressante, on aura les voix supérieures et l'accompagnement, et on est là au bord, c'est ce que Monteverdi fera en franchissant le pas vers le monde de l'opéra. Et le sonnet que j'ai choisi est ici, pour rester un petit peu dans l'atmosphère sensuelle de tout à l'heure avec Titien, et c'est nu dans la peinture, voilà ce qu'il dit à propos du sonnet à Marie, « Marie qui voudrait votre beau nom tourner, il trouverait aimé, aimez-moi donc Marie ». Parce que ce sont les mêmes lettres, c'est la technique de l'anagramme appliquée ici. C'est pour ça qu'il donne son nom à ces sonnets. En voici un parmi d'autres, qui a été mis en musique par un compositeur qui est actif à Vienne, Philippe de Monte. Ça vous donne bien ce côté international aussi du phénomène de la Renaissance, en 1576. Et donc, on a une structure de 14 vers. Vous voyez bien, c'est bien clair. C'est A, B, B, A. Je prends les vers à la fin. On va l'écouter tout de suite, donc ça va être plus clair. A, B, B, A de nouveau, pour le deuxième quatrain, et puis deux tercets, pensée offensée émue, point vu, point, voilà. Donc d'autres syllabes dans les tercets, évidemment, qui développent le sonnet d'une façon assez traditionnelle, en décasyllabes chaque fois, et avec un respect pour Philippe de Monte dans sa polyphonie, évidemment, du texte, mais aussi des processus propres à la musique polyphonique, c'est-à-dire des imitations de toutes les voix. Donc on va entendre parfois le même mot répété à plusieurs reprises, mais une phrase musicale qui respecte la coupure et la versification, avec des silences, par exemple, avec une cadence, à la fin de la phrase. Et donc, on a une belle association entre les deux, sachant qu'il y a un luth qui accompagne le tout, qui donne un tapis sonore, entre guillemets, peu présent, mais qui est quand même important, et la chanson polyphonique étant, évidemment, la difficile réalisation de faire chanter à toutes les voix un même texte. Et ça veut dire que le soprano, la voix du dessus, est privilégiée par rapport aux autres dans ce cas-ci. Sinon, on dénature complètement le texte, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on est à la limite entre ce qu'on appelle l'homophonie, c'est-à-dire un même son, une même voix, toutes les voix pour qu'on comprenne le texte, et un développement polyphonique en décalage. J'ai parlé du processus d'imitation tout à l'heure, qui fait que les voix sont décalées les unes par rapport aux autres et qui ne permettent, cela ne permet pas une bonne intelligibilité de la versification et du poème. Alors, Ronsard, évidemment, est vraiment, comme je l'ai dit, a fait l'objet d'une véritable fascination. Est-ce le contenu, parfois même un peu érotique, de ces sonnets où ici il est question d'amour? C'est possible. Ou est-ce l'attrait d'une nouveauté, d'un traitement plus humaniste des choses, d'une vision des sentiments aussi qui traversait? Ça me semble aussi tout à fait pertinent. Le premier jour du mois devait la dame, que dans le cœur se s'enfuit son amour, son Voilà, par rapport à cet exemple qui évoque bien le cadre en France de toute une fascination pour la chanson polyphonique, dans un cadre très riant aussi dans la poésie de Ronsard. On pourrait évoquer l'architecture, on pourrait évoquer des tas de choses, les châteaux de la Loire, Chambord notamment, et d'autres évidemment dans ce type de contexte. Tout ça se tient aussi par rapport à l'émergence aussi de personnalités qui vont... C'est moins fréquent, c'est moins le cas dans la musique que dans les arts, les autres arts, où les compositeurs ont moins l'occasion, par rapport au style polyphonique omniprésent et international, ont moins l'occasion de manifester leur individualité. Autrement dit, si je synthétise brièvement les choses, on pourrait dire ceci, la Renaissance a véritablement créé au niveau des arts plastiques, la littérature, etc., il y a des nouveautés, mais dans la musique, en fait, c'est la continuité de la musique du Moyen-Âge, qui était déjà polyphonique depuis autour de l'an 1000, et qui poursuit son essor de la polyphonie avec l'âge d'or, effectivement, à la Renaissance. Mais ce n'est pas tellement différent, si on écoute un Philippe de Monté, que les œuvres polyphoniques un ou deux siècles avant. Hein. Les premiers organums, par exemple, de Perrotin, et ceci, n'offrent pas une réelle différence aussi forte que ne le proposent les arts plastiques, par exemple, en matière d'évolution. Ça, c'est clair. Parce que un style musical étant celui qui est pratiqué, il faudra attendre la naissance de l'opéra, donc 30 ans plus tard, pour avoir vraiment un basculement dans le monde de l'époque baroque qui va véritablement changer la donne. Brièvement ici, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà une mélodie de Claude Sermizi, qui est un grand compositeur français, sur un texte de Clément Marot d'un côté, « Tant que vivrai en âge florissant, je servirai d'amour le roi puissant », qui est utilisé ici avec la même mélodie, vous le voyez, mais avec un texte de Beaulieu qui devient « Tant que vivrai en âge florissant, je servirai le Seigneur Tout-Puissant ». Donc, si vous parcourez rapidement les métaphores, par exemple, serpent, Jésus-Christ, et l'amour d'un côté et de l'autre côté, la foi exprimée, on s'aperçoit qu'il y a une interférence, évidemment, très rapidement, on peut procéder à ce procédé qu'on appelle la parodie, que Bach va utiliser aussi. C'est pas profaner une mélodie religieuse, enfin un texte religieux, c'est pas ça. Hein. Ça montre bien que progressivement les choses se rejoignent. On a parlé tout à l'heure du tableau de Véronèse où on voyait la présence d'êtres humains, par exemple, dans une scène de réjouissance, de banquet avec Jésus-Christ, par exemple. Et ça donne aussi une transposition dans le même domaine, ces interférences ici, donc par rapport à une chanson spirituelle ou une chanson d'amour. Donc sur base d'une même mélodie. Alors, une idée qui mériterait à elle toute seule aussi une conférence, et je vais l'évoquer brièvement parce qu'elle permettra à d'autres, dans d'autres conférences ultérieures, de peut-être la développer. Et j'ai pris appui aussi, mais c'était déjà présent dans des textes comme Art, Renaissance et Humanisme, par exemple, d'André Chastel, ou bien d'autres textes qui ont développé autour de la question de la Renaissance, cette idée de l'individu singularisé, évidemment. On ne peint pas un monsieur tout le monde, on peint un personnage, on peint un portrait, on peint un individu. Alors, les choses, évidemment, vous allez me dire, mais c'est existé à l'Antiquité, mais oui, l'art du portrait n'est pas neuf, mais il a été pendant peut-être plusieurs siècles, et je pense notamment au Moyen-Âge, un petit peu occulté, une sorte d'éclipse, et Tsvetan Todorov raconte ça dans un ouvrage qui s'appelle, je crois que ça s'appelle L'éloge de l'individu, et c'est assez remarquable comme analyse. Et il redécouvre alors que dans l'art des enluminures, on montre des scènes de la vie quotidienne avec des gens qui sont présents et qui accomplissent un acte, entre guillemets, de la vie quotidienne qui est gratuit pour l'art, qu'on ne montrait pas en général dans l'art et qu'on se met à montrer pour montrer ce qui se passait à la même époque. Et dans une perspective de temporalité par rapport aux saisons, hein, il évoque la naissance de cette notion d'individu. Alors, en musique, où pourrait-elle se situer, cette notion d'individu ? C'est toujours difficile de la situer comme ça dans le temps. Je serais tenté de dire que, par exemple, en Occident évidemment, les troubadours et les trouvères sont les premiers à manifester leurs sentiments en parlant en leur nom propre. Quand Bernard de Ventadour, qui est un grand troubadour du XIIe-XIIIe siècle, va dire, enfin plutôt du XIIIe, va chanter ses ballades, ses virelets, etc., en racontant ses propres sentiments, en faisant des allusions à la Vierge Marie, qui devient aussi le prototype même de la femme idéalisée. Dans la musique, c'est très très pertinent. On rejoint la même idée d'interférence des métaphores du profane au religieux de tout à l'heure. C'est la notion d'individu dans l'art, qui va véritablement se concrétiser à l'heure avec Monteverdi, avec l'opéra, où il parlera où l'artiste, le compositeur, prend le je comme sujet. On a ça évidemment dans la littérature. J'ai pris appui sur Christine de Pizan parce que j'aime bien cet auteur et parce que c'est une des premières manifestations peut-être où elle parle, elle est l'objet elle-même dans La Cité des Dames de sa propre tristesse, le fait qu'elle a perdu son mari très jeune et qu'elle explique alors ce qui se passe autour d'elle dans ses balades, dans sa poésie, mais aussi dans ce roman dont j'ai reproduit ici une partie, là vous voyez. Donc il y a l'émergence de cet individu dans l'art, c'est une notion peut-être difficile à cerner dans le temps, mais à la Renaissance, il y a une focalisation qui va dans cette direction-là, c'est clair. Et les artistes ne sont plus alors, ou se détachent des codes, par exemple, des conventions qui étaient établies antérieurement, qui permettent à l'artiste d'avoir une certaine individualité, donc concret, pour soi-même, et dont le destinataire est aussi l'homme. Donc c'est une perspective, une nouvelle qui s'offre. Alors, dans la Renaissance, évidemment, en Europe du Nord, m'appelle brièvement, puisque je sais que Michel fera une intervention là-dessus, mais j'ai envie de dire deux idées. Et si tu veux intervenir tout à l'heure, ce sera tout à fait parfait pour compléter mon propos. À parler de Van Eyck, je ne le fais pas. Simplement, le fait que quand on prend appui sur un tableau comme Les deux époux, Arnolfini, bien sûr, c'est aussi Van Eyck qui est représenté dans son tableau à travers la thématique du miroir, qui est très intéressante. Et donc, on a là aussi cette notion d'individu qui se représente dans le tableau, en tant que personne. Mais j'aimais bien l'autoportrait réalisé, ça c'est donc un commentaire par rapport à la Cité des Dames et les figures allégoriques, je vais avancer, c'est Christine de Pizan qui là donc est construite véritablement, c'est la métaphore de la construction de cette cité avec des personnages allégoriques que l'on voit, raison, droiture et justice, avec le miroir, avec le sceptre et la justice pour rendre son dû donc, et Christine elle-même qui s'adresse à elle. Dans ce sont des enluminures qui accompagnent le très beau texte de Christine de Pizan, qui est d'origine italienne, mais qui a vécu essentiellement la plupart de son temps à Paris. Voici l'autoportrait de Dürer. On est là, c'est très interpellant, me semble-t-il, à l'image de Jésus. Donc, que va-t-il se produire à ce moment-là? Ou bien la personne Jésus s'humanise en quelque sorte, ou bien Dürer se profile-t-il à l'image de Jésus, vous voyez? Donc il y a une multitude d'approches peut-être par rapport à ce tableau. Je crois que c'est une huile sur bois. On connaît bien le travail de Dürer qui est actif à Nuremberg, qui est notamment très actif dans la gravure, la Mélancolia par exemple, qui pourrait être aussi autobiographique. Et ici c'est intéressant de le voir, un autoportrait qui ressemble très fort au trait de Jésus. Donc c'est très interpellant par rapport à cette notion d'individu dans l'art. Plus loin alors, et toujours en liaison avec l'Europe du Nord, je vais aborder assez rapidement, puisque je vois que le temps avance, ce sera l'occasion peut-être d'avoir une approche plus approfondie tout à l'heure pour les questions. Bien sûr, l'art est lié à la religion, je n'ai pas voulu dire le contraire. Bien sûr, c'est encore très présent à la Renaissance. Mais bien sûr, il y a un art profane qui équilibre aussi les tendances dans tous les domaines. Et c'est vrai que si on regarde la musique, c'est vrai que si on regarde les arts plastiques, c'est l'art profane qui fait évoluer peut-être plus les choses, et c'est l'art religieux qui absorbe finalement les nouveautés de l'art profane dans l'art religieux. Ça, c'est intéressant aussi comme connexion. Ça mérite aussi, bien sûr, à la fois de nourrir cela d'exemples, mais aussi de mesurer ce type de propos. C'est certainement pas catégorique, mais c'est intéressant de le voir. Et alors, si on s'interroge, vous l'avez fait avec la réforme, c'était impératif de saisir que dans l'Europe du Nord, ce mouvement de la réforme au début du XVIe siècle avec les premières thèses de Luther, etc., Luther était musicien, il a composé des hymnes, il a fait la même démarche en musique qu'il l'a fait pour asseoir ses thèses, c'est-à-dire en traduisant la Bible en allemand, il utilise en fait des mélodies connues de son temps dont il va écrire des textes en allemand qui seront donc chantés assez facilement par les fidèles. Et toute la tradition du choral, pas le choral au sens large, comme on l'entend aujourd'hui quand on dit « je chante dans une chorale », on peut très bien chanter les Beatles, par exemple. Non, il s'agit du choral d'origine luthérienne. J'aurais pris un exemple, on n'aura pas le temps de l'écouter, mais je vais l'évoquer, « Ein Festburg ist unser Gott », donc « notre Dieu est un rempart, c'est une protection ». Eh bien, dans cet hymne luthérien, qui est repris par Bach, je vais montrer comment dans ce processus, qui est repris par Bach des années plus tard, voilà la mélodie de Luther. avec le texte ici en dessous. Hein, c'est un texte syllabique, très facile à chanter. Des silences qui ponctuent les différents vers. On peut reprendre haleine et respirer sans problème. Et tous les fidèles qui sont présents à l'office peuvent chanter sur une mélodie qui est celle de Luther, mais qui est en même temps un emprunt à des mélodies profanes. Encore une fois, souvent, pas tout le temps évidemment. Hein. Il ne faut pas intensifier le phénomène, mais donc connu du public. Même mélodie chez Bach, donc voilà, hein. Ré, 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 la, si, ré, do, si, la, sans mesure, puisque c'est de la musique religieuse, on note pas toujours les mesures. Chez Bach, ça devient la même chose. Ré, ré, la, si, do, ré, do, si, la, ré, do, si, la, si, la, sol, fa, mi, ré. Ma voix approximative permet quand même de comprendre, j'espère, que, avec la structure chez Bach, les différents versets A, B, C, etc., le choral est chanté par le peuple. C'est la même idée, évidemment, chez Luther. C'est plus développé parce que c'est polyphonique ici, on le voit avec la superposition des voix, chez Bach. Donc il y a encore une emprise de la religion, évidemment, à travers la réforme, qui va créer des formes nouvelles. Le choral, c'est un produit pur de la réforme. Donc le choral luthérien, on l'appelle comme ça, qui est notamment chanté, je fais un tout petit parallélisme, même si vous avez vu ce très beau film, Le Ruban Blanc, c'est exactement cette mélodie-là que Michael Haneke exploite au moment où le pasteur est là, dans l'église, et en train de chanter le dimanche matin, avec, en prenant appui sur cet hymne, avec un autre arrangement que celui de Bach. Je n'ai pas regardé exactement, mais on le reconnaît instantanément pour qui connaît les arts de Luther. Donc c'est vraiment très très important. Par ailleurs, je voulais aussi signaler que la contre-réforme plus tardive en Italie va aussi donner naissance à un autre respect, et Palestrina est le compositeur représentatif à Rome de cette contre-réforme, c'est-à-dire de renouer, non pas avec les dérives entre guillemets de la musique religieuse qui s'était entre guillemets trop profanée, mais de renouer avec un chant syllabique. Comme Luther, comme Bach, chant syllabique, ça veut dire une note, une syllabe. Et pas de frioriture, évidemment, pas d'ornement, parce que l'ornement nuit à l'intelligibilité, et donc la musique ne remplit plus sa fonction de propagation de la foi, par exemple. Ce qui est impératif ici, à travers quelque chose de simple à chanter. On s'y mettrait tous ensemble et on pourrait tous chanter le Superius sans problème au bout d'une demi-heure. Bach le sait bien, c'est court, il y a beaucoup de points d'orgue qui permettent à ceux qui se tromperaient de se rétablir à ces points de jonction. Et alors, un dernier point, bon, dommage de l'aborder rapidement, mais je veux respecter aussi l'horaire. Hein. C'est un tableau extraordinaire. C'est un tableau de la... Oui, on va... sur lesquels j'avais fait toute une étude par rapport à Bach et par rapport à la réforme. Donc peut-être je laisse en suspens, mais Grünewald, donc dans un triptyque, c'est le retable d'Isenheim, mais vraiment c'est un détail, c'est la position centrale de cette crucifixion. Le retable d'Isenheim au début du XVIe siècle, en 1515, en pleine période de remous, avec le luthérianisme montant, etc., je crois que les thèses de Luther, c'est un an ou deux ans après. À ma connaissance, en tout cas, la profonde conviction et la foi de Grünewald à travers toute son œuvre se manifestent ici dans une crucifixion particulièrement où la souffrance, donc la partie, je dirais, humaine du Christ est présente, hein, comme on le voit dans une sorte de pré-expressionnisme. Hein, voilà. Ici, c'est très très clair. Dans cette position sur le côté. Ce qui est aussi interpellant, ce sont les figures qui se trouvent sur le côté ici. Voilà Saint Jean-Baptiste lisant l'Ancien Testament, mais surtout disant, voilà Jésus qui est donc l'agneau de Dieu, d'où la présence de l'agneau pascal ici, calice et croix en dessous, les symboles évidemment. Marie en blanc et Marie-Madeleine, et alors on a l'apôtre Jean qui est là en train de soutenir Marie. Donc, dans une dialectique intéressante de la thématique de la crucifixion dans l'art religieux, qui est au fond d'abord représente des Christ, non pas en état de souffrance, mais en état de béatitude, jusque à ma connaissance, mais je ne suis pas sûr, et peut-être que Michel pourra me corriger tout à l'heure, jusqu'au vers le XIIIe ou le XIVe siècle, avant qu'on en aborde la question de la crucifixion sous cet angle-là, sur une vision plus humaine d'un Christ qui souffre véritablement. Voici quelques détails. Et alors, où voulais-je en venir par rapport à ça? Mais c'est que cette thématique de la crucifixion, on va la voir se développer dans toute l'Église réformée, notamment chez Bach, où Bach insiste beaucoup dans sa musique, dans les passions, sur la crucifixion en tant que telle. Et si on va encore plus loin, mais là c'est très dangereux, quand on pense au film Passion de Mel Gibson, par exemple, la violence qui est présente, je ne suis pas du tout proche de cet univers filmique, hein, mais je veux simplement évoquer ici le fait qu'il y ait une insistance sur cette violence par rapport à la crucifixion et qu'on retrouve dans ce film et qui pourrait avoir effectivement, qui pourrait remonter dans l'Église réformée par rapport à cet acte majeur, évidemment, dans le domaine de la religion, dans le domaine de la foi. Ça nécessite bien sûr aussi réflexion et mesure. Hein. Et j'en termine avec ces deux, trois idées. Je pense que je l'ai un peu dit dans la conférence, mais j'insiste sur un point. Si on parle de Renaissance, il faut retourner vers le passé, c'est clair, pour la comprendre. Mais il faut aussi le voir autrement, c'est-à-dire comme une époque qui va être très utile en jetant les bases qu'elle a jetées pour le futur. Beaucoup d'artistes vont s'y inspirer. On a vu quelques exemples concrets avec Le Penseur, notamment. Ça va bien au-delà. La place de l'homme, de l'être humain, devient primordiale. C'est aussi un centre de gravité qui se déplace progressivement avant de se déployer à travers les arts jusqu'à aujourd'hui vers une laïcisation de la culture que je situerai, disons, en gros à l'époque des Lumières. Alors, le monde du religieux et du profane s'interpénètre. Ça, c'est aussi une idée centrale que j'ai développée et qui me semble intéressante. Bien que ça dépend aussi, ça ne dépend pas que de l'artiste lui-même, dit des facilités, ça dépend aussi des commanditaires, bien sûr. Tout ça est à mesurer. Et l'affinité et les convergences entre les arts se développent. On pourrait voir le Moyen-Âge quand même comme une période où les arts n'ont pas la même résonance entre eux. Mais ici, par exemple, la musique et la peinture vont véritablement se nouer. On l'a vu avec les tableaux que j'ai représentés. Et ça va véritablement prendre un sens. Et la pratique de la musique dans les ateliers de peinture, c'est chose courante. Un Tintoret écoute de la musique. Il la pratique peut-être un peu aux luttes. Titien aussi. Ils ne sont pas éloignés de cet univers-là. Ce n'est pas deux choses différentes. Et c'est peut-être aussi ça qui a permis à cette unité des arts, ou disons ce dialogue des arts, de repartir du bon pied, si je puis dire, de ce point de vue-là, à la Renaissance, pour aujourd'hui prendre un sens. Dans les arts d'aujourd'hui, on voit le développement de l'art total, à l'image du théâtre antique, où l'on voit toute une série de performances actuelles qui font appel aussi bien au visuel qu'au sonore, etc., dans un domaine qui relie les arts, évidemment, en résonance permanente. Maintenant, dernier point, je termine ici, il ne faut pas croire que tous les arts vont dans cette direction-là. Hein. Et il ne faut pas non plus croire que parce qu'un art ne s'inspire pas d'un autre, que c'est un art déficient ou mineur, évidemment. Je n'ai pas voulu dire ça. C'est une image de l'art qui se profile ici et que l'on reverra après. Ça ne veut pas dire, évidemment, que tous les arts sont faits pour se marier et pour s'anéantir les uns les autres, si je puis dire, dans une sorte de, je ne sais pas quoi, de chaos cosmologique ou cataclysmique, quel qu'il soit. Voilà, j'en termine ici. Je vous remercie de votre attention et je serai très heureux de répondre ou d'essayer de répondre aux questions s'il y en a. Merci beaucoup.
Voilà, merci donc pour cet exposé. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ?
Merci. Vous avez dit, je crois, que Vasari, c'est Vasari qui parle de Renaissance, qui a donné...
Vasari.
Bon. Ça me semble un peu curieux que l'appellation soit donnée au moment même. Parce qu'en général, c'est
tout
bien après.
Tout à fait.
Et donc, c'est lui qui a eu cette idée-là.
Tout à fait. Donc, il dit, je vais reprendre mes notes pour dire à quel moment il le dit. En 1550, il l'utilise pour la première fois. Le terme Rinascita, si je le prononce bien avec l'accent, je crois sur le A, hein, je crois bien. Rinascita, donc en 1550, et il va écrire donc ses biographies de peintres qui sont très intéressantes à lire parce qu'elles évoquent vraiment le contexte de la Renaissance au XVIe siècle. Et donc il énonce le titre, enfin le nom Rinascita, et il dit que pour lui ça correspond à ça puisque on retourne à cette antiquité. Et effectivement, c'est tout à fait étonnant qu'une époque s'autoproclame, en quelque sorte, c'est ça, s'autoproclame, nous sommes des artistes de la Renaissance. Autrement dit, c'est vrai qu'on l'a fait au XXe siècle, quand un mouvement naissait, par exemple, on s'autoproclamait, le futurisme s'est proclamé futuriste. On a parlé de cubisme après, Apollinaire a parlé de cubisme, mais c'était vraiment dans les années où Braque et Picasso étaient très actifs. Mais pour les périodes antérieures, on n'a jamais dit, nous nous revendiquons, nous avons, par exemple, l'époque baroque, c'est une pierre précieuse qui a donné naissance par après, où les théoriciens ont dit, on va utiliser ce terme-là parce que ça nous semble bien correspondre à un mouvement artistique, un mouvement esthétique. Tout à fait, oui. Je vous ai interrompu,
Par rapport aux couleurs, il est bien connu que les réformateurs, les protestants en général, se cantonnent au noir, au gris, Et donc, il paraît parfois curieux de voir des peintures avec des couleurs chatoyantes, alors que, disons, dans leur esprit, c'est le gris, le noir, le blanc qui compte. Ce n'est peut-être pas une question, mais c'est quelque chose qu'on constate.
Oui, moi je serais plus nuancé, parce que si on prend des artistes de la renommée de Durer, par exemple, en dehors de son travail de gravure, c'est vrai qu'on peut, disons, dans l'Europe du Nord, constater, c'est pas la Méditerranée évidemment, c'est pas aussi méditerranéen, donc la couleur n'a pas autant d'impact, mais on voit par exemple du vert chez Van Eyck, on voit des couleurs, et il faut rappeler que la peinture à l'huile, avec tout ce qu'elle a apporté, c'est Van Eyck, à ma connaissance, c'est 1400, je sais plus combien, 30 quelque part par là. Heureusement que je me trompe pas, hein, que tu es là pour... Parce que parfois, quand on ne maîtrise pas toutes les données historiques, c'est pas toujours évident. Mais donc, Van Eyck, il y a du vert, Roger van der Weyden et d'autres artistes qui viennent à l'esprit aussi, la couleur est déjà présente. La peinture à l'huile est là, peut-être avec moins d'éclat, oui, c'est vrai. Mais je pense que ce sont des univers différents parce que leur sensibilité est différente par rapport à la réforme. Je n'ai pas voulu non plus, quand on voit le Grunewald, c'est un peintre où la couleur est vraiment très importante. Quand on voit les anges musiciens dans l'autre partie du retable, ces anges ont vraiment une envolée de couleurs hallucinantes. Donc, je pense à Jérôme Bosch, par exemple. Jérôme Bosch, j'en ai pas parlé parce que j'allais pas. Enfin, c'était pas mon rôle d'évoquer toute l'évolution de la peinture, etc. Je voulais plutôt faire des parallélismes. Mais c'est tout aussi pertinent chez Bosch de voir qu'il y a un univers très coloré dans son paradis, par exemple, dans le jardin des Lélys, c'est terriblement coloré. Donc, je nuancerais ça. Même si le gris, même si le noir, même si le sombre peuvent être très présents, c'est vrai. Pour faire, disons, une comparaison, je te laisserai la parole, puisque je vois que tu as envie d'intervenir. Entre le Nord et le Sud.
Non, uniquement pour le noir.
Oui.
Il faut se rappeler que le noir apparaît sur les vêtements à un moment donné où le noir est signe de classe et de richesse. La teinture noire est très difficile à obtenir pendant le Moyen-Âge. Donc les ordres mendiants sont en brun, d'ailleurs. Hein. Il faut attendre un ordre aristocratique comme les Augustiniens, pour être habillé en noir. Mmh. Parce que le noir est vraiment une teinture très difficile à obtenir et à maintenir noir. Ça devient très vite moiré, bleu, vert, violet. Mais avoir un beau noir est très difficile. Et donc le noir utilisé à la réforme l'est utilisé comme signe de richesse. Et donc la richesse n'est plus un défaut pour les protestants. C'est une qualité, c'est un choix de Dieu. Donc je fais partie de la bonne partie puisque je suis riche et j'étale ma richesse en montrant mon noir. C'est pas du tout un signe d'austérité, c'est tout à fait l'inverse.
D'accord. Merci beaucoup, dit, pour cet réajustement, parce que j'ignorais cette signification du noir. Ouais. D'autres remarques, peut-être ? Comme j'ai lancé pas mal de sujets qui pourront être, j'espère, réexploités ou réorientés, peut-être, ou aussi revus différemment, parce que faire des raccourcis, c'est toujours dangereux dans l'approche. Si on ouvre la question, je pense que c'est bien aussi que je l'ai fait, pour essayer d'ouvrir des pistes et après de refermer sur certains aspects. Sur les aspects musicaux, peut-être ? Alors, Palestrina est en fait un compositeur très important au niveau de la contre-réforme. Donc, avec le concile qui se déroule au milieu du XVIe siècle en Italie, la musique, il faut savoir que la musique qui précédait, était devenue une musique polyphonique, hein, comme elle l'a été toujours, mais elle n'était plus homorythmique, c'est-à-dire qu'il y avait de constantes imitations entre les voix. Et donc, ces imitations faisaient qu'on ne comprenait plus le texte, puisqu'on pouvait chanter des textes simultanément, mais à des endroits différents. Donc, impossible de comprendre les choses. Pour la musique religieuse, évidemment, cette musique-là ne permettait pas à propager la foi, puisqu'on ne comprenait plus le texte. Ça devenait de la musique en tant que telle, qui n'avait plus pour but d'avoir une relation avec le texte. Et donc, les autorités religieuses et le concile de Trente qui l'ont déclaré, ont voulu revenir à une musique homophonique précédente. Et c'est dans cette mesure-là que Palestrina c'est soumis, c'est-à-dire que on lui demande d'écrire, il travaillait à Rome, on lui demande de composer de la musique religieuse, et il va se soumettre à ce principe. Donc il revient à ce qu'on appelle non seulement, c'est très important à deux aspects, non seulement à une musique où on revient à l'homorythmie, donc à toutes les voix, mais aussi a cappella. Donc le fait de ne plus avoir d'instruments dans la musique religieuse, c'était essentiel, parce que les instruments ont toujours eu une connotation païenne, une connotation de musique plus lascive, on va dire. Il fallait retourner à une certaine austérité, et la musique a cappella a été très typée, donc sans instruments, c'est ce que ça veut dire, à l'époque de Palestrina. Palestrina est devenue alors un modèle, et au XIXe siècle, on a parlé de mouvement cécilien, en rapport avec Sainte Cécile, qui est la patronne des musiciens dans le monde chrétien. C'était à l'Antiquité, c'était Orphée, Apollon Orphée. Puis après, évidemment, le monde chrétien a pris sa patronne en la personne de Sainte Cécile, qui personnifie la musique, dans l'imaginaire chrétien. Et donc, cette figure-là s'est propagée au XIXe siècle, et le mouvement cécilien s'est appuyé sur le mouvement Palestrina, qui est devenu très important, au-delà même du temps de vie du compositeur, dont je n'ai plus les dates en tête, mais ça n'a pas tellement d'importance, au-delà même de la composition de Palestrina, parce qu'on a fait référence. Toute une série de compositeurs dans les messes ont fait référence à cette musique de Palestrina qui devenait l'idéal de la musique a cappella dans la musique du XIXe siècle. Liszt en parle, Bruckner en parle de ce mouvement qui est un mouvement, disons, situé dans le nord plutôt de l'Europe et où on a pris appui sur les modèles de Palestrina. Donc c'est vraiment une figure qui a eu plus d'importance, et ça je crois que c'est essentiel à retenir, évidemment, une figure qui dépasse le XVIe siècle en tant que telle. Alors maintenant, la situation de la musique religieuse par rapport à ça, c'est qu'on peut considérer qu'elle prend toujours appui sur la tradition a cappella, c'est vrai, parce que c'est la voix, c'est le texte et la voix qui sont mariés et pas tellement les instruments qui sont utilisés. Maintenant, si on prend les musiques les plus récentes dans le domaine de la musique religieuse, je pourrais prendre Arvo Pärt, par exemple. Il écrit beaucoup de musique religieuse très intéressante. Finalement, les instruments ont aussi leur part de dialogue. C'est plus du tout... Il n'y a plus de règles. Mais c'était déjà comme ça au XIXe siècle, quand on prend, même au XVIIIe, quand on prend la musique religieuse de Mozart, l'orchestre avait pleinement son discours. Requiem, par exemple. Mais néanmoins, on trouve des moments a cappella. Et ces moments a cappella-là font référence clairement à Palestrina. Voilà. Pour avoir un complément par rapport à ça. Et donc, c'est en latin aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est de la musique latine, attention. Par rapport au mouvement, évidemment, enfin, ça paraît tellement évident, mais c'est en latin, et le respect du latin aussi est essentiel. Pas de langue vulgaire, de la même façon que dans le monde réformé, on va évidemment avoir le développement de l'allemand, qui deviendra la langue véhiculaire des cantates, des passions et tout ça. Donc quand on écoute une musique réformée, c'est très évident qu'on sait que ça appartient à tel mouvement, disons, dans la diversité des différents courants du christianisme. Si c'est l'Église catholique, c'est resté en latin, jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance. Avec des prototypes de textes qui sont toujours les mêmes aussi. Je pense d'ailleurs que le procédé du cantus firmus est encore d'application aujourd'hui. Donc ça, c'est un procédé qui remonte au Moyen-Âge et qui consistait pour les premiers polyphonistes à s'inspirer de fragments de musique grégorienne. Prenant appui sur ces musiques grégoriennes, elles étaient, je me permettrai une comparaison, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais comme un standard de jazz, si vous voulez, qui est exploité par quelqu'un d'autre dans un autre univers, qui devient autre chose, mais dont on reconnaît le thème, et on a appelé les messes sur tel thème, par exemple. Palestrina a continué ce processus-là, parce que ça permettait évidemment aussi, pour l'oreille, d'être connecté, si je puis dire, avec quelque chose de connu. Là, le principe joue énormément au niveau de la mémoire, ce que Luther a bien compris, et ce que d'autres doivent faire aussi. Parce que si on va vers du trop compliqué, la mémoire ne jouant plus, ça devient une œuvre d'art esthétique qui sort du champ religieux. C'est un peu comme ça qu'on peut voir les choses, pour répondre plus largement encore à la question.
Une autre piste intéressante à développer aussi, ce serait peut-être de faire un comparatif avec l'Espagne aussi, qui à cette période-là a présenté des choses extraordinaires aussi.
Je sais bien. J'aurais pu parler effectivement de l'Espagne aussi, de l'Angleterre. C'était un peu un choix. Et d'ailleurs, on l'a vu, j'ai commencé avec l'Italie, parce que ça, c'est vraiment l'émergence de la Renaissance. Et puis après, bon, je tournais dans une autre sensibilité. Vous avez tout à fait raison. Je dirais que, et surtout l'Espagne, à ce moment-là, c'est vraiment l'âge d'or de toute une série de choses en Espagne, au niveau de la littérature, au niveau des arts, etc. Et au niveau de la musique aussi. C'est un moment important de son évolution. Tout comme l'Angleterre aussi. Maintenant, c'est vrai que on a toujours trop tendance, et c'est bien de le dire, on a toujours trop tendance, et les livres d'histoire y contribuent aussi, je pense, à voir Renaissance égale Italie, et donc on recommence un peu les mêmes schémas. Il faudrait revoir l'ensemble des arts d'une façon en synchronie, si je puis dire, pour voir qu'est-ce qui se passe exactement au même moment dans tous les pays. C'est vrai que c'était aussi un peu mon point de départ, mais bon. Mais vous avez tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec cette vision, et c'est vrai que en dehors de la musique, comme je l'ai dit, la musique, c'est assez international. Mais le reste mérite une approche personnelle par rapport à la littérature, etc. Et par rapport aux arts plastiques aussi, bien sûr, avec des peintres qui ne se ressemblent pas. Alors que les musiciens, il y a plus de liens. Les musiciens travaillant aussi dans des cours, comme à Vienne, comme à la cour... ils partaient, évidemment. Ils travaillaient à différents moments. Donc ces voyages faisaient qu'ils adoptaient ce style international. Autrement dit, reconnaître une œuvre d'un compositeur, qu'il soit à Vienne, qu'il soit à Paris, qu'il soit en Italie, qu'il soit en Espagne ou en Angleterre, en dehors de la langue, quand on est dans le domaine profane, pas dans le domaine religieux, hein, mais quand on est dans le domaine, c'est pas évident.
Merci
encore. Merci aussi. Merci beaucoup.